sciences.ch. Comment combler le fossé qui sépare les sciences sociales des sciences de la nature? C'est la question au sommaire de sciences.ch aujourd'hui. La réponse sera donnée par Fabrice Clément. Fabrice Clément est actuellement chargé de cours au département de sociologie de l'Université de Genève, mais il est également philosophe, anthropologue et spécialiste des sciences cognitives. Il a étudié en Suisse, en France et aux États-Unis et propose aujourd'hui une approche transdisciplinaire et naturaliste des phénomènes sociaux.
Effectivement, je reviens là d'un séjour de plus de 3 ans aux États-Unis où j'ai essayé d'appliquer les recettes d'une philosophie, disons, naturaliste.
Ça veut dire que le philosophe se coltine à la matière aussi, à l'expérimentation?
Voilà, c'est l'idée, ou du moins s'il ne fait pas lui-même les expériences, il essaie de se rapprocher de personnes qui en font, et il arrive avec ces questions, qui sont des questions souvent d'ordre très théorique ou épistémologique, et il aimerait profiter des recherches qui ont été faites dans des secteurs plus scientifiques, si vous voulez, pour essayer d'y voir plus clair dans une série de problématiques qui sont des vieilles problématiques de la philosophie.
Pourquoi proposer une approche naturaliste d'un monde qui est essentiellement culturel, selon les vieilles traditions?
Bon, c'est le fruit d'une trajectoire aussi, comme vous l'avez dit, je suis parti de questionnements anthropologiques, ce qui m'a approché d'un prof de Paris qui s'appelle Dan Sperber, qui lui a commencé justement à réfléchir sur la manière dont certaines des questions sociologiques peuvent être appréhendées sous un nom naturaliste. Alors ça ne veut pas dire que les sciences dites dures vont résoudre tous les problèmes des sciences sociales, loin de là, c'est simplement un pari sur une communicabilité plus grande entre les sciences comme la psychologie ou les neurosciences essentiellement, et les sciences sociales comme l'anthropologie ou la sociologie. Surtout qu'il y a un certain nombre de problèmes où, à mon avis, les sciences sociales sont un peu bloquées depuis quelques années.
Vous avez parlé de vos travaux avec Dan Sperber, qui sont des travaux qui reposent sur une approche évolutionniste. Est-ce que vous ne craignez pas, en appliquant une approche biologique, disons, à la société, de perdre ce qui est le propre de la société, c'est-à-dire l'aspect culturel?
Actuellement, il y a un programme de recherche que je suis en train de développer avec une sociologue qui s'appelle Laurence Kaufmann pour montrer que cette espèce d'agrégat qui est fait la plupart du temps entre le social et le culturel, on fait le pari que ça peut être décomposé, qu'il y a une série de dimensions sociales qui ne sont pas a priori, disons, culturelles et qui peuvent être étudiées sous un angle assez naturaliste. Donc on fait par exemple l'hypothèse qu'il existe des capacités partagées par tous les humains. Ces capacités ont été sélectionnées au cours du temps pour résoudre des problèmes spécifiques qui sont des problèmes liés à la vie en société.
Le fait d'avoir une approche évolutionniste pour des problèmes sociaux, ça veut dire, Fabrice Clément, que vous refusez cette vieille idée qui disait qu'à un moment donné, l'histoire et la culture ont remplacé l'évolution.
C'est l'idée de Lévi-Strauss. Effectivement, la culture a changé, a modifié beaucoup de choses. Mais d'une certaine manière, ça a changé tellement de choses qu'en en restant à cette espèce de déclaration un peu vague et abstraite, on a l'impression que les choses n'ont plus beaucoup évolué du point de vue de la recherche depuis un bon bout de temps. Je pense que notamment des a priori très souvent soutenus dans les sciences sociales, c'est que dans le fond, les individus sont prêts à avaler n'importe quel système culturel. Le petit homme, l'enfant, serait une sorte de feuille blanche sur laquelle n'importe quel grand texte ou grand récit culturel pourrait s'inscrire sans aucune difficulté. Donc du coup, l'importance est effectivement accordée à la culture, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs comment la définir, et dont les mécanismes causaux sont extrêmement mystérieux. Donc ça, c'est justement un des thèmes qui est très développé dans l'approche naturaliste, c'est de se dire, oui, mais dans le fond, quel type d'ontologie ces étranges entités culturelles ont? Quel type d'objet? Est-ce qu'ils méritent d'appartenir, au sens fort du terme, à l'ontologie ou à l'ameublement du monde tel que les scientifiques l'accordent? Alors certains disent non, il faut réduire ces entités culturelles, pas forcément les entités sociales, réduire les entités culturelles à de pures entités psychologiques. D'autres disent non, s'il s'agit de quelque chose qui, d'une certaine manière, pour un individu, est toujours déjà là, et il va être baigné dans ce monde, il va acquérir un certain nombre de caractéristiques de cette culture. si vous voulez, ces deux camps qui s'opposent sans forcément essayer d'y voir plus clair en se disant, bah, tiens, allons voir du côté de la psychologie du développement, c'est justement ce que j'ai essayé de faire aux États-Unis, allons voir du côté des psychologues du développement pour essayer de déterminer comment les enfants, est-ce que les enfants avalent complètement une culture, ou au contraire, est-ce que le processus par lequel ils acquièrent les règles culturelles sont des processus beaucoup plus sélectifs. Est-ce que n'importe quelle institution culturelle pourra donner lieu à une instauration dans le système cognitif des enfants, ou est-ce que certains types d'objets culturels auront plus de chances d'être, entre guillemets, sélectionnés sur le long terme parce qu'ils seront plus facilement mémorisés, retenus, les gens vont plus facilement y adhérer. Donc si vous voulez, la grosse boîte noire sociologique que le naturalisme essaye de décortiquer ou d'éclairer, c'est le processus de la socialisation.
Donc ça, effectivement, ça nous ramène à de très lointains ancêtres, parce qu'il y a toutes sortes de sociétés animales déjà, et on n'est pas les premiers à vivre en société. Mais peut-être ce qui avait fait dire à certains que la culture remplaçait l'évolution, c'était aussi la question du rythme de développement, parce qu'on sait bien que l'évolution, pour qu'elle soit vraiment effective, il faut des millions d'années. Or, on est très différents des hommes de l'Antiquité. Mais on n'est pas différent biologiquement, même si on vit différemment, qu'on a d'autres connaissances, qu'on a une autre culture, qu'on vit dans un monde beaucoup plus complexe, on est fait à peu près la même chose biologiquement, Fabrice Clément.
Une des grandes différences entre une approche, disons pour simplifier, naturaliste d'un côté et culturaliste de l'autre, c'est que les naturalistes auront toujours tendance à insister sur les similarités, alors que les culturalistes auront plutôt tendance à insister sur les différences. Donc ce qui donne généralement, une division aussi professionnelle, c'est que les naturalistes auront plutôt tendance à se trouver dans les milieux de la psychologie ou des neurosciences, et forcément les culturalistes du côté de l'anthropologie. Mais je veux dire, c'est une division qui, à mon avis, est due en bonne partie à l'histoire des institutions et au fait que les anthropologues, après cette idée un peu du grand partage entre nos sociétés et les sociétés exotiques, sont devenus les spécialistes des croyances bizarres. C'est-à-dire que l'anthropologue qui part loin de son pays pour 2 ou 3 ans, dans des conditions de vie très difficiles souvent, et qui serait revenu en disant « mais dans le fond, ces gens sont comme nous », disons, sa carrière professionnelle aurait été un peu mise à défaut. Donc il y a une sorte de biais professionnel qui fait que les anthropologues se concentrent sur les phénomènes les plus étranges qu'ils vont découvrir dans une culture étrangère. Du coup, ils oublient ou ils laissent de côté le fait qu'ils ont pu vivre avec ces gens généralement assez vite, qu'ils ont pu se comprendre sur toute une série de choses de la vie de tous les jours, et que dans le fond, si on pouvait, ce qui est impossible, mais si on pouvait mesurer la quantité d'informations qu'ils avaient en commun avec ces gens, et les informations qui, au contraire, leur paraissaient étranges, généralement c'est dans les cultes, les rituels, les mythologies que ces exemples bizarres sont recherchés, eh bien on s'aperçoit que dans le fond, les points en commun dépassent largement les différences d'ordre culturel.
Donc en fait, les invariants, qui sont aussi une découverte des anthropologues, hein, les invariants anthropologiques sont du côté de la nature et les différences du côté de la culture, c'est trop simple ou bien ?
Non, c'est une assez bonne... Quoique, encore une fois, c'est possible qu'on puisse dire qu'une série des points en commun soit culturelle. Par exemple, la prédisposition que les humains ont à acquérir des objets culturels, elle est naturelle, mais elle s'applique à des objets culturels. Donc la culture elle-même devient un environnement pour les êtres humains, et il est bien possible qu'une série de capacités plus ou moins innés, disons, a été sélectionné dans un processus adaptatif qui fait que les humains qui sont capables d'acquérir des objets culturels vite et de les utiliser de la manière la plus efficace possible ont un avantage du point de vue d'adaptation. Une de ces capacités premières, c'est ce qu'on appelle l'intentionnalité partagée. Les enfants sont par exemple très rapidement capables de voir ce qui est perçu, puis ce qui est conçu par des adultes qui sont autour d'eux. Donc ils vont par exemple suivre le regard des adultes, d'abord d'un point de vue perceptif, puis d'un point de vue plus mental. Et on suppose que ces intentions partagées jouent un rôle crucial dans l'élaboration après d'objets culturels. Il faut que les gens regardent dans la même direction pour ensuite concevoir un objet abstrait, conceptuel en commun. s'il n'y avait pas les moyens d'imaginer ce que l'autre est en train d'imaginer, il y a toute une série d'objets abstraits qu'on ne pourrait pas élaborer en commun. Donc simplement pour dire que, y compris dans la nature, si on veut, des êtres humains, il y a très vraisemblablement des dispositions qui ont été sélectionnées pour acquérir des objets culturels qui sont parmi les objets auxquels nous devons nous adapter. Ceci dit, cette sélection a eu lieu dans un environnement très spécifique, c'est celui des chasseurs-cueilleurs du Pléistocène. C'est eux, nos ancêtres, qui ont vécu suffisamment longtemps dans les mêmes conditions pour que des mécanismes aient pu être sélectionnés. Ces mécanismes marchent très bien dans un certain nombre de circonstances, mais pas dans toutes les circonstances. Donc si on pense à la vie des chasseurs-cueilleurs, ils vivaient par exemple dans des petits groupes où les relations étaient de face à face essentiellement. Et les mécanismes que l'on a développés, par exemple la reconnaissance des visages, qui semble être une capacité extrêmement spécifique, mais nous vivons maintenant dans des très grands groupes et nous avons tendance à appliquer les mêmes mécanismes qui peuvent parfois conduire à des erreurs ou du moins des mécompréhensions par rapport au fonctionnement du système social.
Science.ch accueille aujourd'hui Fabrice Clément pour une approche naturaliste des sciences sociales.
Ce qui très rapidement m'a intéressé justement dans une perspective naturaliste, c'est de se dire, mais dans le fond, ces mécanismes, est-ce qu'on peut leur donner un substrat physique ou biochimique ou plus modestement psychologique? Donc je me suis très rapidement rapproché de toute une série de disciplines voisines, si on peut dire, de l'anthropologie ou de la philosophie, et ça a débouché sur une série de projets de recherche qui sont encore en cours de réalisation. Le premier dont je peux vous parler, c'est celui qui a consisté à tester ces a priori des sciences sociales qui consistent à dire que l'enfant est une page blanche et que la culture, ou n'importe quel objet culturel, à partir du moment où il est défendu par des adultes dans lesquels il a confiance, vont s'imprimer sur cette page blanche sans aucune autre forme de procès. Donc là, l'idée a consisté à essayer d'aller tester ça avec plus de 100 enfants de 3 à 5 ans pour essayer de voir à partir de quel moment ils étaient capables, d'une part, d'utiliser les informations d'autrui pour accroître leur connaissance sur le monde et, d'autre part, en quelle mesure ils sont capables de filtrer, puisque j'ai développé des hypothèses liées au filtrage cognitif et émotionnel, dans quelle mesure ils sont en mesure de filtrer les informations lorsque ces informations, même si elles proviennent d'une source de confiance, contredisent ce qu'ils savent déjà. L'idée était de voir si, une fois qu'ils sont en possession d'un certain nombre d'informations, est-ce qu'ils vont s'y accrocher lorsque leur environnement social commence à dire quelque chose de différent. Donc les premiers résultats semblent montrer que, dans des cas simples en tout cas, les enfants ont tendance très largement à rejeter une information qui contredit ce qu'ils savent déjà, même si cette information provient d'une source qui a dit la vérité dans le passé. Ils ne vont pas avaler n'importe quoi, les enfants, comme le savent tous les parents, mais pas tous les spécialistes des sciences sociales. Il y a là un processus qui est extrêmement intéressant de filtrage qui semble apparaître très très jeune, en tout cas à partir de 3 ans, probablement déjà plus tôt, comme le montrent d'autres expériences que j'ai faites aussi avec des collègues à l'université d'Harvard, une sorte de résistance très forte par rapport à des informations qui contredisent ce qu'ils considèrent comme su. Il y a là, semble-t-il, une architecture cognitive, une architecture sémantique qui fait que les enfants ne sont pas prêts à gober n'importe quoi. Et s'il y a des choses qui sont gobées, et il y en a d'une certaine manière, il faut que ces contenus culturels aient une certaine forme qui fait que, même s'ils ne sont pas rationnels au sens très fort du terme, une forme qui permette de tromper, si vous voulez, ce filtre cognitif.
Donc finalement, ce qui serait sélectionné par l'évolution, c'est en fait un besoin de cohérence, de mettre de l'ordre dans le monde qui nous entoure. C'est peut-être simplement ça, non, Fabrice Clément?
Oui, je pense que ça joue un rôle important. Il y a une psychologue avec qui j'ai travaillé en Californie, qui s'appelle Alison Gopnik, qui a une thèse qui est très proche de la vôtre. Elle parle d'une forme d'instinct de curiosité, une espèce de pulsion qui fait que l'enfant cherche à faire du sens avec ce qui est autour de lui. Cette pulsion serait sous-tendue par le plaisir qui est lié à la découverte, si vous voulez, à la découverte du sens. Et j'ai utilisé cette théorie pour essayer d'ailleurs d'en faire une petite hypothèse dans le cadre de la psychologie de la religion, de la conviction, en disant que il n'est pas impossible qu'on ait affaire là à un mécanisme je dirais pas de leurre, mais un mécanisme détourné de sa fonction initiale. Si vous voulez, ce plaisir qui est associé à la découverte du sens qui existe chez les enfants, qui existe chez pas mal d'adultes, et en particulier les scientifiques, qui ont justement cette opportunité de continuer à s'émerveiller du monde et à essayer d'y apporter du sens comme le font les enfants, et bien cette fonction initiale, dans le cadre des croyances religieuses, jouerait également dans le sens suivant, c'est que vous avez souvent dans les grands récits religieux, et lorsque vous lisez les récits de conversion, c'est quelque chose qui se retrouve très souvent, cette idée que l'individu, à un moment donné, est perdu dans son existence, il y a des choses qui ne font plus sens pour lui, son passé semble en miettes ou en morceaux, il n'arrive pas à refaire du sens sur son passé et par conséquent à donner une forme à ses projets d'avenir. Et soudain, un gourou ou un sage propose un grand récit qui accorde une place à cet individu, qui retraduit toutes ses expériences passées dans une forme orientée vers l'avenir et qui lui donne toute une série de réponses existentielles. Et quand vous lisez les descriptions justement des convertis, vous avez ce plaisir qui émerge à un moment donné, ce plaisir de la mise ensemble d'une série d'informations sur leur vie à eux et sur la vie en général, qui tout d'un coup se mettent ensemble, qui s'organisent et qui donnent une direction vers l'avenir. Donc c'est l'émerveillement qui ressemble beaucoup, beaucoup à l'émerveillement d'un enfant face à une découverte. Donc cet émerveillement qui serait à la base un émerveillement d'ordre cognitif, ouvrirait très large cette espèce de grille ou ce filtre représentationnel, puisque du point de vue du croyant, l'émotion ressentie est une émotion cognitive, très proche de l'émotion cognitive liée à sa découverte du fonctionnement réel des choses. Il y aurait une parenté extrêmement grande entre ces deux phénomènes, et mon hypothèse c'est que ce sentiment de compréhension associé généralement à des compréhensions d'ordre cognitif est recruté par l'organisme de ces individus un peu paumés à un moment donné pour dire « oui, c'est vrai ». Et ils se plongent souvent après dans une doctrine ou un système religieux. Donc cette espèce de barrière de méfiance cognitive peut être levée grâce à cette espèce d'instinct de l'exploration qui est récompensé par ce plaisir cognitif.
Oui, c'était aussi la pulsion épistémique de Freud. Hein. Ça existe aussi dans la psychanalyse, qui est une pulsion comme une autre, mais consacrée au savoir. Simplement, je me disais, il y a effectivement le plaisir dont vous parlez, Fabrice Kellman, mais il pourrait y avoir l'angoisse horrible de trouver un monde qui n'est pas du tout comme on l'imagine, où chaque chose nous semble contradictoire. C'est le plaisir de donner du sens, mais c'est aussi la fin d'une douleur qui pourrait être celle de vivre dans un monde qu'on ne comprend pas.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Il y a ces deux aspects. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pas mal utilisé les émotions pour essayer de comprendre des phénomènes comme ceux de la crédulité, par exemple, ou les phénomènes comme la duperie de soi, ce que les Anglais appellent la self-deception, où effectivement, il y a les deux aspects qui sont impliqués, de manière très intéressante dans la duperie de soi d'ailleurs. Vous avez deux manières de vous tromper vous-même, si vous voulez. Vous avez la manière où une réalité, ou un système représentationnel, ou une croyance religieuse ou autre, vous paraît si désirable que vous allez y adhérer, même s'il y a toute une série de facteurs dont vous êtes de manière semi-consciente un peu sceptique. Mais à un moment donné, il va y avoir ce saut dans ce système parce que les promesses de plaisir, si vous voulez, sont extrêmement grandes. Puis vous avez l'autre aspect du prix de soi qui est celui où vous avez une réalité extrêmement désagréable en face de vous et quelque chose se produit qui fait que vous ne la voyez pas, entre guillemets. Il y a des travaux intéressants qui montrent que les processus émotionnels, les processus de détection de l'effet que certains nombres d'événements peuvent avoir sur votre propre bien-être sont des processus extrêmement rapides. Par contre, les processus conscients sont relativement lents. Et l'hypothèse que j'ai élaborée consiste en fait à dire que ces mécanismes émotionnels qui vont scanner les conséquences possibles de telle ou telle réalité, par un mouvement de bouclage, de rétroaction, auront tendance, lorsque les résultats sont très négatifs pour l'organisme, auront tendance à faire diminuer la production de dopamine. Et la dopamine joue un rôle crucial dans l'activation des représentations mentales. Donc si vous avez tout d'un coup un saut de dopamine, le processus conscient qui lui a avancé un peu plus lentement, pas à pas, on va lui couper les jambes, si vous voulez, et ça va s'arrêter. Donc il est tout à fait possible que ce genre de mécanisme permettent d'expliquer comment ces quasi-paradoxes peuvent exister, parce qu'ils existent, on en est tous témoins, ce genre de choses arrivent.
Et puis dans tout l'aspect de la crédulité, il y a aussi de l'autre côté la question de l'émetteur qui peut être un menteur. Or le mensonge, c'est quelque chose d'assez récent dans l'évolution, donc peut-être qu'on n'est pas armé non plus pour réagir au mensonge.
Là, ça c'est une excellente remarque. Est-ce que le mensonge est récent dans l'évolution ? Il y a un certain nombre d'éléments qui laissent penser qu'il n'est pas si récent que ça en fait, le mensonge. Bon, c'est pas un argument définitif du tout. Mais les primates trompent leur monde. C'est tout de même un élément qui tend à montrer que le mensonge existe depuis longtemps. Et le problème du mensonge est un problème extrêmement important, en fait, y compris dans cette problématique de la crédulité. Parce que si on suppose que le mensonge existe depuis longtemps, il y a un risque pour une société de se dissoudre du moment où une proportion trop grande de la population, ou du groupe, puisqu'au début on parle plutôt de groupe, commence à mentir, plus personne ne va faire confiance à personne et la société va capoter. Alors c'est possible que toute une série de sociétés dans le passé aient capoté pour cette raison, mais bon nombre de sociétés humaines ont résisté. Pour qu'une société résiste, il faut qu'il y ait coopération, c'est indispensable. La coopération est mise en danger par le mensonge ou la manipulation. Donc on se trouve dans une situation où deux solutions, entre guillemets, ont pu être élaborées. Alors une solution naturelle, une solution culturelle. On pourrait se dire, il y a... Et ça, c'est toute l'approche plutôt fonctionnaliste dans les sciences sociales qui va dire la société a développé une série d'institutions pour empêcher justement que trop de menteurs se mettent à se développer, parce qu'autrement, c'est la catastrophe. Voilà, c'est la société. Alors, les naturalistes ont toujours tendance à se méfier de toutes explications qui commencent par « la société décide que ». Alors, les naturalistes ont plutôt tendance à se dire « tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas sélection de mécanismes cognitifs au sens large du terme ?» qui permettrait de détecter les menteurs. Et il y a actuellement une hypothèse qui est soutenue par pas mal de gens, qui consiste à dire que nous aurions ce que les anglo-saxons appellent un cheater detect, un détecteur de menteurs. Et ce détecteur de menteurs recruterait une série de capacités que nous avons, comme par exemple la capacité à reconnaître les visages et de les mémoriser. Donc on se rappelle qui a fait quoi, et puis ensuite à se rappeler les interactions passées. Donc, se rappeler que celui-ci, dans le passé, n'a pas collaboré ou a menti plusieurs fois, donc a une tendance à l'exclure du jeu social, si vous voulez. D'autres supposent qu'il y aurait peut-être même des mécanismes d'ordre émotionnel qui auraient pu être sélectionnés pour éviter justement que ce mensonge devienne la règle et du coup tue la vie sociale. Et un de ces mécanismes plutôt d'ordre émotionnel serait la culpabilité. Bon, c'est des hypothèses, c'est des choses qui doivent encore être développées, etc. Mais le mensonge, effectivement, joue un rôle très important. D'autant plus que si l'on vit dans un univers où on peut aussi bien avoir affaire à un menteur qu'à quelqu'un qui collabore, comme c'est le cas généralement dans la vie de tous les jours, il y a de fortes chances justement qu'on doive développer un mécanisme, peut-être en partie inné, en partie appris. C'est ce que j'essaye d'un peu déterminer avec mes recherches, de filtrage pour justement détecter, y compris par rapport à quelqu'un que l'on ne connaît pas du tout, si son message mérite d'être cru ou non. Alors par exemple, il semble que l'on ait un mécanisme très efficace, encore une fois, dont on ne s'aperçoit pas forcément, de détection de la consistance et de la cohérence. Par exemple, lorsque quelqu'un nous raconte une histoire, on est généralement assez bon pour se dire « Tiens, c'est pas exactement ce qu'il m'a dit il y a 5 minutes, ou il y a 2 jours, ou il y a 1 mois. » Et la même chose dans l'ici et maintenant, tendance à détecter les contradictions à l'intérieur même de ce qu'il dit. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne se laisse pas avoir, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les moments où, malgré tout cet équipement formidable sélectionné par l'évolution, on se fait avoir. Donc c'est intéressant d'étudier ces exemples, un peu au cas par cas, donc pas de grande théorie avec un grand T majuscule, mais chaque fois une insistance justement sur les mécanismes.
C'était Fabrice Clément, chargé de cours au département de sociologie de l'Université de Genève pour une approche naturaliste des sciences sociales. Science.ch, c'est un projet et ses séries des Suisses, une émission d'Anne-Marie Rine tous les vendredis à 11h, avec rediffusion à 19h05 et réécoute possible sur notre site internet espace2.ch à la page de ce jour.